m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ses ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et oui, vous êtes sur Radio Courtoisie. Bienvenue dans Restons Courtois, où nous allons ce soir nous demander ce que veulent les Français pour la présidentielle. Alors, parmi les préoccupations majeures des Français, c'est évidemment l'éducation. Non seulement parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont devenus crétins grâce à l'éducation nationale, mais parce qu'ils ont bien peur que leurs enfants le soient encore plus qu'eux-mêmes, pour ceux en tout cas qui ont encore dessous de jugeote. Et en vient se rajouter à ça l'intelligence artificielle qui fait que même Arthur de Vatrigan ne sait plus comment il peut conseiller à son fils quelles études prendre, puisque l'intelligence artificielle risque de toute façon de détruire son travail dans 5 ans, à peine les études finies, à peine le diplôme en poche, tout ça ne servira à rien. Donc l'éducation est une des préoccupations majeures des Français et nous en parlerons avec Augustin Yvan de la Fondation pour l'école. Bonjour Augustin Yvan.
Bonjour Richard Decez.
Et après, nous parlerons avec Philippe Erlin de son programme pour la présidentielle, un programme absolument admirable qu'il va développer sous nos yeux éblouis, puisque pour l'instant, son site de campagne est en ligne, mais que, à part un excellent slogan des bitcoins et des prisons, nous n'en savons pas beaucoup plus. Mais justement, faisons-lui confiance, il y aura des choses à prendre dans l'intervention de cet économiste dans le débat de la présidentielle. Mais tout de suite, revenons à la Fondation pour l'école, qui a demandé à l'IFOP de faire un sondage sur que veulent les Français pour l'école. Et donc, ce sont des questions qui vont pouvoir être posées aux candidats à la présidentielle de 2027.
Absolument, c'est l'idée. On avait envie d'avoir le souhait des Français un an avant. Ça paraissait légitime d'orienter l'action des candidats, puisque l'école, c'est souvent le grand oublié. Il y a beaucoup de choses qui font du bruit dans la société, mais malheureusement, l'éducation, qui est du temps long, ça n'en fait pas partie. Donc, on voulait faire remonter cette problématique-là, cette thématique. Merci à vous de nous permettre d'en parler. Et on a donc posé une dizaine de questions aux Français par le biais de l'IFOP, que nous remercions, sur tous les sujets, mais principalement sur des sujets d'organisation scolaire, puisque de test PISA en test PISA, la France dégringole, et qu'il y a vraiment une question de structure scolaire qu'il faut revoir.
Alors, on a l'impression, à lire vos questions et surtout à considérer les réponses, qu'il y a presque des résultats transverses qui se dégagent. D'une part, les parents d'enfants scolarisés dans le public n'ont pas l'air ultra confiants de la manière dont ça se passe dans le public. Par exemple, 64% des Français aimeraient que les écoles développent un style éducatif propre, et parmi ces 76% des salariés du secteur public qui en seraient ravis. Et 84% des Français souhaitent le renforcement des pouvoirs des directeurs et des chefs d'établissement, dont 80% des Français, des parents du public. Donc, on sent bien que l'école publique en tant que telle, ou l'école privée de l'autre en tant que telle, ne sont pas des modèles qui s'opposent dans l'esprit des Français, qu'il y a une offre scolaire complète et qu'il y a une insatisfaction générale, en fait.
Exactement, et à ce titre, je me permets un témoignage. J'étais moi-même directeur d'établissement indépendant en banlieue parisienne pendant une dizaine d'années, et j'ai constaté que les parents, en fait, peuvent leur importer l'étiquette. Ils ne venaient pas pour du privé, du hors contrat ou du public. Ils venaient pour un niveau, et ils venaient pour un cadre éducatif. Et ça, à partir du moment où ils le trouvent, ils sont contents, c'est ça qu'ils recherchent. Donc nous, on n'a pas du tout cherché dans ce sondage à opposer les entités les unes contre les autres, et les Français, de fait, et vous l'avez souligné, qu'ils soient du public ou du privé, aspirent aux mêmes choses. Ils aspirent encore plus à ces choses-là quand ils ne les ont pas ou quand ils les ont moins. C'est pour ça que les parents du public souvent demandent de manière forte certaines choses dont ils sont privés. Je pense au pouvoir du chef d'établissement, par exemple, mais aussi au fait de pouvoir choisir une école quitte à payer un peu pour son enfant, parce qu'eux ne peuvent pas faire ce choix-là. Ça, c'est un chiffre fort de l'enquête. 82% des Français considèrent que seules les familles aisées peuvent choisir l'école la plus adaptée pour leur enfant. Ça veut dire que concrètement, ces 82%-là pensent que on ne peut pas spontanément choisir l'école, on est obligé de passer par la carte scolaire et qu'il faut être riche pour avoir une bonne éducation. Et ça, c'est un gros problème puisque on voit bien que le public est confronté à ses limites et qu'aujourd'hui, les parents n'y trouvent plus leur compte.
C'est sûr qu'il y a marqué liberté, égalité, fraternité sur tous les frontons, mais que là, pour le moment, les gens ne sont pas libres de choisir leur école et donc leurs enfants ne sont pas égaux puisque les uns ont accès à une éducation meilleure que celle que recevront les autres et évidemment sans aucune fraternité, ni dans les cours de création, ni dans les classes, ni entre les établissements. Et c'était le premier résultat que j'avais noté, effectivement. 66% des Français souhaitent la mise en place d'un système de financement qui permettrait à chaque famille de choisir l'école de ses enfants. C'est-à-dire, personne ne renonce à payer l'impôt, mais ils aimeraient en fait que moyennant, enfin que puisqu'ils donnent pour l'éducation, eh ben, ils aient le droit de choisir l'éducation que leurs enfants vont recevoir.
Exactement, il y a une vraie incitation à la déméritocratie, si vous me permettez cette expression, parce qu'aujourd'hui l'idée c'est l'État paye pour vous, dormez braves gens, et on va scolariser vos enfants. Sauf que malheureusement c'est un fait, le niveau du public baisse, il est compliqué, les familles n'en sont pas satisfaites. Donc toutes les familles qui ont des stratégies scolaires pour leurs enfants, mais quel que soit leur niveau de revenu, je veux dire, c'est pas une question de revenu, elles essayent des choses qui sont payantes. Elles sont obligées de contourner la carte scolaire. Je l'ai vécu en tant que directeur à partir de novembre dans le CM2. Pour vous donner une idée, nous n'avions pas de collège. À partir de novembre, ils développaient des stratégies de « je vais domicilier mon enfant chez la tata, chez le cousin » pour pouvoir changer d'école sans être contraint par la carte scolaire. Donc en fait, ces Français-là, qui sont les Français en fait, des catégories populaires les plus simples, qui aspirent à pouvoir être financés. Et d'ailleurs, une précision, c'est que ces 66% qui veulent le bon scolaire ou chaque éducation, appelons-le comme on veut, ben dans le lot, il y a 71% des parents qui sont issus du public et il y a 72% qui sont issus des catégories populaires. Donc en fait, c'est pas une demande de riches du privé qui se disent « finançons-nous comme ça », c'est vraiment une aspiration.
C'est ça qui est tout à fait fascinant, c'est qu'on voit bien que l'insatisfaction qui est exprimée vient de ceux que le système écrase en fait. Voilà, ce sont les moins riches qui aimeraient bien être plus riches, ce sont les moins éduqués qui aimeraient bien être mieux éduqués. Et en fait, ce sont tous ceux qui font partie des exclus de cette admirable société française qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer dans le jeu et qui disent à l'État, vous prétendez nous donner une éducation, en fait, nos enfants ne reçoivent rien ou quelque chose de médiocre. Vous dites que nous payons ou que c'est gratuit, mais en fait, nous sommes prêts à cet argent à le donner à quelqu'un d'autre. En tout cas, nous voulons choisir. Nous ne faisons plus confiance à l'État.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que de fait, l'école n'a pas été inventée avec l'État. Avant l'État, il y avait déjà une école. Avant, les hussards noirs de la 3e et tutti quanti. Donc, il ne s'agit pas de dire le public fait mal son travail tout le temps, toujours et de manière irrémédiable. Il s'agit de dire c'est pas ça la question. La question, elle n'est pas est-ce que l'État fait bien son travail. Elle est comment on peut faire, tous privés, publics ou hors contrat, pour faire que la scolarisation de nos enfants soit bien faite. Et ça, il y a quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que en fait, les familles, elles ne cherchent pas particulièrement la facilité, mais simplement, la plupart du temps, les listes d'attente du privé sont telles et l'organisation est telle qu'elles n'y ont pas du tout accès. Je vous donne un exemple, aujourd'hui, il y a la règle du 80-20, la règle non écrite, qui fait que le privé a droit à 20% de l'ensemble des effectifs des petits élèves français et leur contrat représente 1%. Donc pour vous dire, c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin, mais on espère une aiguille significative. Et c'est l'objet d'un ratio, on ne peut pas dépasser ce quota, c'est l'objet d'un quota. Donc ça veut dire que de fait, vous interdisez, vous contraignez au monopole étatique scolaire, alors qu'en fait, les Français, eux, ils ne sont pas des idéologues. Les Français, ce sont des parents, pour la plupart, et ils souhaitent quoi? Ils souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Ils sont au plus proche du terrain. C'est ça qu'on a voulu montrer dans cette étude.
C'est la proposition 6, d'ailleurs, que vous faites, puisque, donc, évidemment, cette étude est assortie du renouvellement des propositions que vous avez faites. Alors, certaines, vous les faites depuis longtemps, d'autres sont peut-être issues de cette étude-là. Proposition 6, supprimer le contingentement de l'enseignement privé sous contrat. L'enseignement privé sous contrat ne peut accueillir qu'un quart des élèves. Cette règle n'a aucune justification rationnelle et n'a d'ailleurs même pas de fondement juridique explicite. Tiens, en fait, c'est comme si à un moment donné, l'enseignement public et l'enseignement privé avaient négocié sur un coin de table en disant « Ok, on ne peut pas vous empêcher d'avoir des écoles, ce serait un peu trop gros que de vouloir supprimer tout le système éducatif que vous avez mis en place, mais on va faire en sorte que vous ne puissiez n'avoir qu'une portion congrue, et d'ailleurs même incongrue, des élèves disponibles. Il faut que l'État reste l'acteur majoritaire et que l'ensemble de ce qui se fait en matière d'éducation concerne la majeure partie de la population. »
Exactement, une vision très jacobine finalement, très centralisatrice, qui est l'idée de dire il faut que tout soit uniforme. Il faut que tout soit pareil et si possible baigné de valeurs très précises et que définies. Je pense par exemple, on peut penser à Vincent Peillon, qui a écrit l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a écrit des ouvrages assez intéressants à ce sujet, où il parle d'arracher les enfants à leur déterminisme social, religieux, culturel, enfin bref, faire tabula rasa et revenir à l'éducation du citoyen. Donc derrière, il y a des visées très claires qui sont malheureusement parfois pas pédagogique, mais plutôt idéologique. C'est ça qui paraît stupéfiant, parce qu'en réalité, l'enseignement, les gens qui s'investissent dans l'enseignement privé sous contrat, ils sont pas là pour endoctriner les enfants, parce que d'ailleurs, c'est pas du tout lucratif d'être enseignant aujourd'hui, hein, dans le sous contrat.
Oui, et puis rappelons que 72% des écoles libres sont aconfessionnelles.
Exactement. Alors, dans le hors-contrat, pour le coup, il y a énormément de 72%, vous l'avez dit, d'écoles aconfessionnelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les écoles hors-contrat, c'est quoi ? C'est une émanation de la société civile. C'est un jour des gens, sur tout le territoire, dans les banlieues, dans la ruralité. Il se trouve que moi, je fais le tour des régions dans le cadre de mon nouveau travail responsable développement. Je fais des rencontres inter-écoles en région, que ce soit à Chambéry, que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, où que j'aille. À chaque fois que j'ai en face de moi, j'ai des gens qui sont des associations, qui sont des braves gens, qui se sont dit, nous, on a un projet d'éco-école, on a un projet d'école bilingue, on a un projet d'école Montessori, on a quelque chose pour nos enfants, parce qu'on constate que la déferlante numérique est déréalisatrice dans le sens abstract. Les enfants sont complètement déconnectés aujourd'hui dans le sens au réel, je veux dire. On veut réagir contre. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec leurs petits bras? Ils montent une association de gestion et ils s'embarquent dans l'aventure d'une école. Mais il faut voir que l'État français étant ce qu'il est, les tracasseries administratives sont très nombreuses. Volontaires ou pas, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, monter une école, c'est tout un projet. Et malgré ça, ils y vont. La plupart du temps, ils ont du mal à boucler les fins de mois. Ils savent pas comment ils finiront l'année. Ils doivent mobiliser les familles en leur disant « Chère famille, vous allez payer deux fois ». Donc, on espère que vous avez les moyens. Ces familles-là vont chercher le tonton d'Amérique, le grand-père qui a un peu d'argent, chercher des dons. Elles se saignent 80 pour l'éducation de leurs enfants. Donc, en fait, cette caricature de dire le privé, avec une espèce de... Comme il y a une confusion, parce qu'il se trouve que certains ministres d'Éducation nationale ont tendance à scolariser leurs enfants dans le privé. Donc, on pense que c'est une école de riches. En réalité, pas du tout. C'est une école de braves gens, le privé.
Ah, c'est une école de braves gens, et donc ces braves gens ont aussi un appétit de liberté, et se rendant compte que volens nolens, cette éducation nationale, y compris d'ailleurs dans les programmes qui sont appliqués dans l'école libre sous contrat, ne correspond pas au niveau d'exigence qu'ils ont pour leur enfant, voilà, le fait de maîtriser les savoirs fondamentaux, par exemple, c'est-à-dire que les élèves arrivent en sixième en sachant lire et écrire, ça paraît complètement idiot dit comme ça, mais hélas, la preuve est faite chaque année et chaque année d'une manière plus amère que certains élèves arrivent en sixième sans savoir ni lire ni écrire.
40% enfin, en l'occurrence.
Voilà, donc c'est quand même, on en est à des niveaux délirants où on a considéré que comme le gamin était capable de faire je ne sais pas quoi comme autre chose que les savoirs fondamentaux, lire, écrire et calculer, voilà, il avait le droit de passer en n'étant pas capable de rédiger, même pas une rédaction, enfin, en n'étant pas capable de prendre quelque chose en dictée, en n'étant pas capable de former ses lettres. Enfin, on est stupéfait. Eh bien, dans votre sondage, vous testez des possibilités. Est-ce que, par exemple, chaque école pourrait avoir son enseignement ? Est-ce que chaque école pourrait avoir son style éducatif ? Est-ce qu'un directeur d'école peut recruter son équipe ? Et donc, autrement dit, comment est-ce qu'on fait, non pas pour dire je change les programmes, mais comment est-ce que je fais pour échapper à la normalisation, à la standardisation ?
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du centralisme jacobin et de ce qui vient d'en haut. Et penser dans des bureaux, en réalité, en tant qu'ancien directeur, je peux témoigner de ça, c'est au plus proche du terrain qu'on voit ce qui est vraiment utile. Et ce qui est vraiment utile, en l'occurrence, ça dépend des endroits. Encore une fois, on n'oppose pas les écoles aux autres. Moi, je disais toujours aux parents, regardez votre carte scolaire et choisissez la meilleure école, qu'elle soit publique, privée, hors contrat, peu importe, soyez stratège. Mais toujours est-il que ce qui est essentiel, en l'occurrence, c'est plutôt de dire, ok, moi, par exemple, qui étais directeur dans une école en banlieue parisienne avec beaucoup d'enfants allophones, qui parlaient mal le français pour la plupart parce qu'ils ne le parlaient pas à la maison, eh bien, comment faire pour leur apprendre ça ? Plus spécifiquement que si j'habite, sans offense, dans le 16e arrondissement. Et si mes origines sont françaises depuis 1515 Marignan et tutti quanti. Donc la réalité, c'est que nous avons développé, par exemple, une pédagogie basée sur la méthode Nuits, qui est une méthode d'apprentissage grammatical dotée sur le sens, et par ailleurs sur tout ce qui est de l'ordre d'un cadre éducatif strict. Pourquoi ? Parce que beaucoup de familles avaient une problématique, c'est qu'elles étaient habituées à un rapport à l'autorité culturellement différent. Elles arrivaient, pour beaucoup, du nord de l'Afrique, de Turquie, du Pakistan, de différents. Et donc, on n'avait pas le même rapport à l'autorité. Donc, il a fallu qu'on crée un projet pédagogique, en l'occurrence dans mon école, qui soit basé sur, un, ce besoin d'apprentissage des mathématiques avec Singapour, de la grammaire avec la méthode Duits, et d'un cadre éducatif basé à la fois sur la discipline positive et sur un cadre clair et strict quand il le fallait, en accord avec les parents bien sûr, mais ça c'était mes besoins. Si aujourd'hui je déménage dans l'Arzac en tant que directeur, mes besoins seront différents. Donc nous c'est ça qu'on a voulu, c'est on a voulu montrer qu'il faut décongestionner l'école en fait. Il faut permettre la subsidiarité des acteurs. Il faut que ça passe de là-haut à en bas. Bien sûr, ça ne veut pas dire sans cadre. D'ailleurs, le socle commun aujourd'hui est de plus en plus développé. Parfois, c'est un peu liberticide, soit dit en passant, mais toujours est-il qu'il y a une base commune. Mais simplement, il faut, une fois que cette base est connue, dire maintenant, le directeur va être le patron, seul maître à bord après Dieu, comme on dit avoir du Titanic, et en espérant que ça ne coule pas cette fois-ci, et qu'il puisse dire, bah voilà, je recrute mon équipe, ce qui n'est pas le cas dans le public aujourd'hui. Hein. Ces professeurs lui sont imposés du fait des affectations. Qu'il puisse dire, on va aller là, voilà mon projet pédagogique, chers parents, le voulez-vous, ne le voulez-vous pas? Et c'est ce qui fait la différence en fait, c'est que la plupart du temps, les parents sont libres de leur choix. Dans le privé, les parents choisissent. Et c'est tout bête, mais ça fait la différence. Parce que quand vous subissez, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur y a un problème, c'est que les gens du public ont l'air encore plus d'aspirer à la liberté. Ben forcément, parce qu'en réalité, ils n'ont rien choisi. Alors que les familles que j'avais, nous, c'était une petite école, hein, il y avait 75 familles, elles avaient toutes choisi d'être là. De payer une petite somme, parce qu'on se saignait pour que ce soit pas cher, mais du coup de suivre un projet pédagogique. Et quand il y avait un problème, je pouvais leur dire, ben, cher monsieur, chère madame, regardez le contrat, il est là, donc on va devoir trouver une solution, se séparer, selon les options bien sûr.
Je voudrais revenir sur cette idée du patron de l'établissement, qui du coup serait incroyable, un patron. 84% des Français souhaitent le renforcement des pouvoirs des directeurs et des chefs d'établissement, dont 80% des parents du public. Dans les mêmes proportions, ils adhèrent à la possibilité que les directeurs recrutent leur équipe de professeurs. Et la phrase suivante est parfaite. Fort de ses prérogatives, le directeur pourra ainsi appliquer courageusement le règlement intérieur de son établissement et provoquer un choc durable d'autorité. Et on se dit, à lire cette phrase, qu'il y a un tel délabrement d'autorité et que le directeur, en fait, reçoit des gens qu'il n'a pas choisis pour enseigner dans un cadre qui lui est imposé, des matières qui sont extrêmement normées, avec des professeurs qu'il ne maîtrise pas forcément, mais dont il ne peut pas du tout questionner les compétences.
Et des élèves astreints à la carte scolaire également.
En plus,
que personne n'a choisi d'être là, ni les professeurs, ni les personnels, ni les élèves, ni les familles.
Très juste, les professeurs non plus, c'est vrai que c'est bon de le dire, ils sont les premières années, ils sont toujours affectés à des heures et des heures de chez eux, souvent en tout cas, notamment dans l'académie de Versailles, qui est très grande.
Non, ils sont surtout affectés dans une académie qui n'est pas la leur, vous en parler.
Ah, oui.
Ils doivent déménager au pied levé au milieu de l'été, avec des affectations très tardives, évidemment dans un lieu qui est peu accessible, ou par le train ou par la voiture. Peu importe qu'à 23 ans ou 24 ans, vous ayez ou pas le permis, pour le coup, les premières affectations sont quelque chose de brutal.
Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Albert Salon, qui a maintenant 91 ans et qui a été ambassadeur de France, a commencé comme maître d'école dans un village complètement paumé de France, où il avait plusieurs niveaux. Il avait 7 niveaux dans sa classe et 30 élèves. Et donc, voilà ce garçon qui avait montré un peu d'esprit rebelle à l'école normale des instituteurs. Et donc, on avait puni en l'envoyant, mais vraiment, un trou. Et qui a économisé sou à sou pour s'acheter un Solex afin de pouvoir aller à Dijon suivre des cours pour pouvoir ensuite devenir normalien. Enfin voilà, donc
c'est méritoire. Bravo.
Et il racontait évidemment sa stupéfaction de se retrouver coincé dans un village où il n'avait aucun moyen en fait d'échapper à quoi que ce soit.
C'est très intéressant parce que en l'occurrence.
Et à l'époque où au contraire, enfin grâce à Dieu, il a 91 ans, donc au moins les gens du village respecter la fonction de l'instituteur.
Oui, il y avait des choses qui étaient plus positives. Toujours est-il, c'est intéressant ce que vous dites, parce que nous avons ouvert l'école au milieu du Val-Fouré. Donc, autant vous dire que c'est pas l'endroit où spontanément où les gens forcément ont envie d'aller. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu recruter une équipe assez jeune, qu'on a formée, qui était déjà bien formée, mais qu'on a vraiment travaillé à former, et qui avait envie de venir. La plupart vivaient à Paris, mais ils faisaient une heure et quart de trajet tous les matins pour venir. pour un salaire qui était meilleur que dans le public, mais qui n'était pas non plus... Enfin voilà, on était avec nos petits bras, on va dire. Et tant et si bien que ces gens-là, qui avaient entre 25 et 35 ans, ils se levaient le matin, ils venaient parce qu'ils avaient choisi d'être là. Et c'était ce qui faisait toute la différence, je pense. C'est que quand vous choisissez, ben, tout de suite, c'est plus facile. Vous avez adhéré aux contraintes, vous les avez fait en fonction d'un choix qui est selon vos calculs personnels et familiaux. Et il faut que les parents, les enfants, les professeurs et les directeurs puissent le faire, ce choix. Sinon, c'est subi.
Choisissons encore son projet d'établissement. Y a-t-il encore finalement des projets d'établissement libres ? Pensons également à la question de l'enseignement catholique sous contrat. Nous recevions votre patron, je crois, Michel Valadier, voici quelques mois, qui nous racontait les fameuses inspections dites perquisitions qui ont eu lieu l'an dernier dans les établissements catholiques. Saint-Dominique, etc. Bon, toutes sortes d'établissements qui, à la suite des affaires et des scandales qui ont été révélés, 40 ans après, pour des établissements qui parfois n'étaient pas liés d'ailleurs à ces affaires, ont été fouillés, ont été surveillés, et où on a par exemple interrogé sur la place de la catéchèse à 8h ou à 10h du matin, sur le caractère ou non obligatoire du catéchisme ou de la messe, sur l'idée qu'il était peut-être anormal que des élèves inscrits dans l'établissement catholique assistent à une pauvre messe pendant l'année. Est-ce qu'il y a encore, vous parlez de volonté, vous parlez de libre choix, vous parliez du bonheur d'être là, du bonheur de se lever le matin, y a-t-il encore vraiment des projets libres d'établissement ? Ou est-ce que justement la liberté de choisir, la liberté de s'organiser n'est-elle pas de plus en plus restreinte ?
Eh ben, c'est vrai que dans le privé sous contrat, les équipes ont dû faire face à une limitation ces dernières mois et années de leur champ d'action. Après, beaucoup d'entre eux sur le terrain gardent quand même une vraie marge de manœuvre parce que en réalité, à la fin, c'est le réel qui gagne. Donc les inspecteurs ne sont pas tout le temps là et à un moment donné, ils peuvent agir. Mais toujours est-il que c'est aujourd'hui le hors contrat qui a le plus cette liberté-là. Parce que en l'occurrence, les professeurs ne sont pas payés par l'État. C'est vraiment un financement privé. Et donc, l'État vérifie que le socle commun est appliqué, que les mesures et les normes de sécurité sont mises en place, mais pour le reste, vous êtes libre de vos choix. Vous devez juste justifier que, à la fin, en troisième, l'enfant a acquis un certain nombre de savoirs. Mais j'ai envie de dire, en réalité, il n'y a même pas trop besoin de le prouver parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Enfin, la réussite est tellement plus facile, entre guillemets, malgré les difficultés financières et structurelles, hein, mais dans le hors contrat où les effectifs sont plus petits, où vous avez cette liberté-là, qu'en réalité, on voit bien qu'il y a une marge de manœuvre aujourd'hui qui est pas à l'extérieur du système, parce que la notion de hors contrat renvoie à un peu hors de contrôle, ce qui est complètement faux. Je peux vous dire que vous l'avez dit, on est particulièrement contrôlé, beaucoup plus que dans le public.
Oui, c'est cela.
Donc en réalité, vous inquiétez pas que la moindre chose qui ne rentrerait pas dans la notion très abstraite, ce qui arrange bien, de valeur de la République, eh ben, on va nous la pointer, on va nous envoyer une lettre avec une mise en demeure dans quelques mois, sous peine de tant de milliers d'euros d'amende et de tant de mois d'emprisonnement. Évidemment, souvent, c'est de l'ordre de l'intimidation. Et parfois, l'administration est aussi une machine aveugle, donc parfois, c'est même pas volontaire. Mais toujours est-il qu'il y a cette espèce de machine comme ça qui s'appuie sur vous. Nous, à la Fondation, nous conseillons les écoles en leur disant « pas de panique, le champ de l'État, il est là, votre liberté, elle est là ». Simplement, parfois c'est difficile, c'est un peu David contre Goliath. Mais néanmoins, dans les projets que je vois, je le disais tout à l'heure dans les rencontres inter-écoles, dans le hors-contrat, je vois énormément de choses sur la manipulation dans les apprentissages, notamment en mathématiques, c'est le gros problème. Le choix des manuels de français, avec un amour du beau langage, avec la possibilité de choisir les auteurs que vous voulez, où il y a, de manière générale, l'amour du beau, du vrai et du bien qui transpire dans les apprentissages. Donc c'est possible. C'est possible aussi dans le privé sous contrat. Il faut avoir le bon directeur. Il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que dans le public, c'est pas un directeur, mais vous le savez mieux que moi, c'est un principal. Pourquoi ? Parce que c'est un peu primus inter pares, il n'est pas le chef, il est le principal. Donc il y a certaines choses qu'il peut coordonner, mais il n'a pas le pilotage complet. Bah, résultat, ça ralentit considérablement la moindre chose. Vous avez en plus le conseil des parents, qui se charge de ralentir encore plus les décisions qui iraient contre la fermeté et l'autorité parfois. Donc... En réalité, les pauvres, moi je veux dire, je n'ai que compassion pour mes collègues qui sont dans des situations plus compliquées que celles où j'ai eu la chance d'être, où j'avais en fait les manettes. Il y avait un président d'association de gestion et moi, le binôme président-directeur. Et alors là, à moi l'opérationnel, à lui la gouvernance, il me laissait les mains complètement libres, je lui rendais des comptes, parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on est le chef qu'on fait tout seul et qu'on fait ce qu'on veut. Et c'était une véritable liberté. C'était pas toujours simple. J'ai dû faire face à des situations de crise compliquées, puisque dans le quartier où j'étais, parfois, il suffit...
Donc, le Val-Fouré.
le Valfouré. Il suffit d'une fake news sur Facebook, sur une page plus ou moins salafiste, pour que vous vous retrouviez d'un coup avec 15 demandes de désinscription le week-end de la Pentecôte, ce qui m'est arrivé. Donc j'ai dû gérer la chose. J'avais mon président derrière. On a construit une ligne qui était en fait juste redire ce qu'on est, mais de manière ferme et équilibrée. Bah, ma foi, les gens qui n'étaient pas contents, ils sont partis. Bah, cette année-là, on a perdu 15 familles, mais la belle affaire. Parce que les années d'après, on les a regagnées, ces 15 familles. On en a gagné 10 de plus. Et au moins, bah, on savait que à l'école où je travaille, eh bien, les choses qui sont dites sont faites et le directeur incarne ce projet. Ce n'est pas un ministère de l'éducation où le ministre change tous les 7 ans, ou tout, non, où il y a 7 ministres en 7 ans plutôt.
Augustin, pardonnez-moi Lucien, je voudrais revenir justement sur le développement d'un style éducatif propre, donc, oui. Qui est aussi l'un des résultats de votre sondage. Donc 64% des Français sont favorables à une diversification des pédagogies. Vous nous avez cité deux exemples tout à l'heure, le calcul avec la méthode Singapour et la grammaire avec la méthode
Nuits ou logopédagogie.
Voilà, logopédagogie. Et donc, là, ça veut dire en fait que il y a des innovations pédagogiques. Par exemple, la méthode Singapour, on a tous vu ces reportages. Le professeur dit 174,26 divisé par la racine carrée de 334. Et à ce moment-là, les élèves se mettent à faire comme ça et ils sortent tous le résultat final qui est 14,32. Et donc, on n'a rien compris. Sauf que les gamins ont l'air heureux, qu'ils agitent les bras dans tous les sens et que visiblement, en plus, le résultat est bon. Ces innovations pédagogiques que vous avez choisies, donc cette méthode grammaticale, cette méthode de calcul, l'éducation nationale les connaît.
Bien sûr, elle les connaît pour partie. Je prends l'exemple de l'expérimentation de Céline Alvarez qui avait lieu à Argenteuil, je crois, dans les années 2020. Elle a écrit un excellent livre qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Par ailleurs, c'est souvent cité par Stanislas Dehaene, et puis il y a tout un courant de neurosciences dans l'éducation qui travaille là, sur cette base-là. Elle s'inspirait beaucoup de Montessori pour faire ça, et elle a fait une expérimentation dans le public. Eh bien, ça a obtenu des résultats spectaculaires qui ont fait qu'elle a pu vendre son livre à des millions d'exemplaires. J'en suis très heureux pour elle. Nous, on s'est beaucoup inspiré de ses travaux notamment, mais je veux dire, ça, c'était une expérimentation du public. Le problème, c'est que le système est tel que vous ne pouvez pas facilement passer d'une expérimentation à une généralisation. Il y a plein de raisons à ça. Le fonctionnariat en est une, et encore une fois je dis ça sans critique parce que je sais que c'est compliqué mais toujours est-il que ça bloque. Par ailleurs, il y a aussi un corpus pédagogique qui est là depuis 30-40 ans qui est difficile à bouger. Je vous dis ça encore aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'élèves, je prends l'exemple du français, moi j'étais instituteur de CM1 CM2 initialement, qui est arrivé en sachant à peine lire. Pourquoi ? Je prenais leur cahier des classes d'avant dans les écoles d'à côté. Ils avaient appris en méthode globale. Donc, ils avaient écrit carton, ils me lisaient carapace parce qu'ils avaient vaguement lu que ça commençait par car et qu'on leur avait appris les mots valises, les contours de mots et tutti quanti. Ça, je l'ai vécu. Un autre exemple, c'est les mathématiques. Il y avait des élèves qui ont été calés devant les écrans, pas forcément par les profs, aussi par les parents des fois, et je jette la pierre à personne, qui comptaient sans savoir que ça c'est 1 et ça c'est 2. Il faisait 1, 2, 3. Il ne corrélait pas la quantité, la matière et la numération, l'abstraction. Donc il fallait à chaque fois repasser dans les apprentissages pour que l'enfant en CM1 il finisse par comprendre qu'en fait, au bout de 10, ben, j'ai une dizaine et qu'il y a une retenue. Donc vous imaginez les efforts que ça demande. Et ben, du coup, on a pris notamment Singapour, qui passe du tout à la partie de manière très, très habile et surtout qui vous permet de manipuler beaucoup. Ça m'a sauvé la vie, parce que je m'en sortais pas. Vous êtes censé faire les fractions. Que voulez-vous expliquer si l'enfant, c'est même pas que 22, c'est 2 dizaines et 2 unités isolées? Vous êtes bloqué. Donc, en réalité, moi, ce que je perçois de l'éducation nationale, pour y connaître beaucoup de gens qui y travaillent, c'est que beaucoup, en fait, font leur beurre dans les bonnes méthodes pédagogiques. Simplement, l'ensemble ne permet pas de généraliser ce système-là. Et je terminerai sur ce thématique avec une anecdote. La plupart de mes bonnes astuces pédagogiques, c'est une professeure du public qui était bientôt à la retraite, à côté de l'école, qui me les a données. Parce que c'était du bon sens, en fait. Elle m'a énormément aidé. Donc, c'est pas tant une histoire de personne, c'est une histoire de structure. Il y a un corpus pédagogique aujourd'hui à l'éducation nationale qui, souvent, est le fruit du pédagogisme des années 60 et qui a du mal à bouger. Et ça, c'est déplorable parce que c'est souvent les professeurs les plus jeunes et les moins bien formés dans les quartiers les plus compliqués qui font perdurer ça.
Vous dites que le fonctionnariat empêche effectivement l'application de bonnes méthodes pédagogiques ou en tout cas de méthodes pédagogiques éprouvées. Parce qu'effectivement, on pourrait reparler désormais des paradigmes pédagogiques. Pourquoi est-ce qu'ils se maintiennent contre toute évidence? Pourquoi est-ce qu'ils sont maintenus contre l'évidence de résultat, comme les médecins de Molière qui continuent à expliquer que leurs remèdes de pure abstraction étaient les bons? Revenons donc au statut de fonctionnaire. Si l'on fait sauter le statut de fonctionnaire, et vous parliez des contextes dans lesquels vous enseignez et des pressions qui peuvent s'exercer sur les professeurs du public, sera-t-il encore possible d'enseigner ? Y compris dans un bon établissement, y compris dans un établissement tout à fait cossu, avec des élèves entre guillemets bien élevés, avec des parents qui n'ont pas de difficultés sociales particulières très graves, etc. Bien, la pression sur les notes, par exemple, avec Parcoursup est très très forte. Vous voyez ? Le professeur est quand même un métier exposé. Alors certes, le statut de fonctionnaire protège d'éventuelles pressions qui viendraient d'en haut. Et même si la politique suivie par l'Éducation nationale, ce qui n'est pas forcément le cas, était bien inspirée, était inspirée par exemple de la Fondation pour l'école, eh bien, nul n'obligerait finalement des fonctionnaires sous statut à l'appliquer. Parce que, de fait, donc, on voit que derrière les idées que vous formulez, les constats que vous faites, etc., la solution généralisable, la solution globale paraît lointaine quand même.
De fait, ça ne va pas se faire en deux mois, ça c'est sûr. Le système est bien implanté et il faut regarder le temps long. Nous, c'est ça qu'on veut faire à la Fondation pour l'école. En fait, on veut sortir des mesurettes et des ministres qui changent tous les six mois. On veut des mesures sur le temps long. Je prends un exemple pour répondre à ce que vous dites. Il existe des moyens termes entre privé complet, public complet. Je prends un exemple, c'est la proposition du sénateur Max Brisson qui parrainait notre colloque hier, qui est les établissements publics autonomes. Qu'est-ce qu'il dit le sénateur Brisson ? Il dit qu'il faut favoriser l'autonomie de toutes les écoles en créant des établissements publics autonomes d'éducation. Le directeur disposera d'une autorité hiérarchique sur les enseignants, pourra les recruter dans un ensemble de fonctionnaires, mais il pourra quand même les recruter. Ça se fait d'ailleurs beaucoup dans d'autres corps de la fonction publique, notamment dans la diplomatie. Donc il existe beaucoup d'exemples du fait que le fonctionnariat n'est pas forcément l'affectation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il pourra aussi adapter les programmes aux besoins des élèves. Donc ça, c'est important de se dire qu'il existe des possibilités entre le fonctionnariat kafkaïen et l'ultralibéralisme à l'anglo-saxonne.
Et le renforcement des pouvoirs du directeur. On sait que dans un système privé, comme peut l'être l'enseignement catholique, comme peut l'être l'enseignement hors contrat, la position du directeur dépend assez largement de la confiance que lui accordent les parents. Or, la logique des parents, que leur enfant réussisse, n'est pas forcément celle des enseignants. Bien sûr, les enseignants souhaitent que tous leurs élèves réussissent, mais pas au prix de l'exigence académique et des savoirs disciplinaires. Et si après plusieurs tentatives, et si après des efforts, et si après etc., il se trouve que l'élève ne comprend pas, le parent, lui, ne renoncera pas. Ne renoncera jamais.
Et heureusement.
Et heureusement. Et heureusement. Mais, finalement, le professeur, le directeur, aura aussi l'oreille des parents, puisque finalement, sa position dépend de la confiance des parents.
Exactement.
Puisque ce sont, entre guillemets, sans vouloir être trop cynique, ses clients. Alors le renforcement des pouvoirs du chef d'établissement n'aura-t-elle pas pour effet de sacrifier l'exigence académique que portent les professeurs, finalement, sur le dos de pression clientèle, celle des parents?
Alors ça, c'est intéressant, parce que il faut raisonner en cercle concentrique ou en poupée matryoshka à la russe, si vous voulez. Le premier cercle du directeur, si c'est un chef, ça va être son équipe d'enseignants. C'est eux, c'est ses sergents et ses bataillons. Donc ça veut dire qu'il va d'abord déléguer, puisque lui, il est dans son bureau la plupart du temps, il va déléguer aux éducateurs et aux professeurs le travail à faire. Donc ça veut dire qu'en cas de conflit avec des familles qui, vous l'avez dit, sont les clients, puisque techniquement, elles payent. Donc client, ça fait Uber Eats et ça fait Amazon. Mais en réalité, non, il y a une prestation effectivement qui est offerte. Et quelquefois, ça peut vous simplifier la vie, je peux vous dire. Parce qu'au moins, il y a des clauses dans le contrat, quoi. C'est pas quelque chose comme ça qui flotte dans l'air comme, comme la télé et comme l'argent public pour l'école publique, vous voyez. Eh bien, ce directeur-là, il va d'abord se baser, si c'est un bon directeur, évidemment, et ça, c'est à partir de là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, sur son équipe, il va écouter les remontées. Par contre, après, c'est vrai que c'est lui qui va assurer le troisième cercle auprès des parents. Je vous donne un exemple concret. J'ai eu beaucoup de situations conflictuelles avec les familles, parce qu'il y avait parfois des problématiques culturelles, religieuses, scolaires, la plupart du temps quand même. Et en fait, souvent, c'était deux langages qui ne se comprenaient pas. Puisque le professeur, il est en face de lui une classe, et le parent, il a son chouchou à la maison, qui en plus, le pauvre, a passé une heure et demie sur... Bon, je vous épargne les détails. La plupart du temps, ce qu'on faisait, c'est que d'abord, quand l'échelon rencontre professeur-parent était dépassé, mais il fallait qu'elle ait lieu d'abord, sans ma présence, on recevait ensemble le parent, il exprimait ses doléances. Ensuite, le professeur pouvait y répondre. Je faisais une sorte de synthèse où on trouvait un accord. Et derrière, on faisait revenir l'enfant. Et on formulait devant l'enfant, pour ne pas casser la cohérence entre les adultes, ce qui avait été décidé. Et ensuite, je redonnais la parole à la famille en disant « Bah écoutez, Naïm, maintenant, on va laisser papa et maman vous expliquer ce qu'on a décidé. » Comme ça, on renforçait, parce que la plupart du temps, en fait, les parents ont besoin aussi, c'est normal, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ils avaient besoin qu'on les aide à se saisir parfois de l'autorité. Et j'ai une anecdote, je me souviens d'une fois où une maman est venue me voir, enfin, je vais voir une maman au portail en lui disant « Je suis bien désolé, mais toujours Naïm, toujours lui, j'ai l'impression qu'il est très fatigué. » Et elle me dit « Mais oui, c'est terrible, il ne veut pas me rendre la télécommande de la télé. » Ah, il était en maternelle. Donc là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Donc j'en discutais avec Julia. Bon, mais comment ça se fait? Et elle m'explique qu'en fait, il fait des crises énormes et qu'elle n'arrive pas à gérer ça. C'était une maman célibataire. Et je fais venir Naïm. Je lui dis, donc Naïm, qu'est-ce que j'apprends? Maman me dit que vous refusez de faire ça. C'est vrai, Naïm? Alors là, il pique du nez. Je lui explique en quoi ça n'est pas bien et je rends la parole à la maman. Et résultat, ça a renforcé au profit de tous les acteurs. Et je n'ai désavoué ni le professeur, qui en l'occurrence n'était pas là, mais qui m'avait remonté les problèmes, ni la maman, ni l'enfant. Donc je pense qu'il y a des choses à faire pour que ça ne contredise pas, que ce ne soit pas la lutte des uns contre les autres, mais plutôt en respectant les cercles de la poupée russe, comme je vous le disais, ou plutôt les petites poupées de la poupée russe, cette priorisation, cette hiérarchie.
Alors, à propos de petites poupées, c'est le moment de vous rappeler que vous écoutez Radio Courtoisie, que nous recevons avec bonheur Augustin Ivan, qui nous parle d'une passionnante étude de la Fondation pour l'école, mais que, voilà, les petites poupées font les grandes rivières. Ah non, c'est pas ça. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et que ce serait tout à fait aimable de votre part, puisque vous faites partie des 1,5 million qui nous écoutez chaque semaine, merci beaucoup, que vous fassiez partie des quelques milliers qui nous donnent chaque année. Voilà, donc, entre 1,5 million et quelques milliers, il y a une marge de progression. N'hésitez pas, faites partie de la cohorte des valeureux qui nous donne modestement. Voilà, ça ne coûte pratiquement rien d'avoir Augustin Ivan comme directeur d'école parce qu'il se saigne pour avoir. Voilà, et ben ça ne vous coûte pratiquement rien d'écouter Radio Courtoisie. 1 euro, 2 euros, allez, 5, ça nous suffira. Merci beaucoup. Vous vouliez poser une question, Lucien Rabouille?
Absolument. Je comprends tout à fait ce bon sens qui doit guider les différents acteurs pour les bas âges. Primaire, jusqu'au collège, finalement jusqu'à 14-15 ans, face aux besoins de l'enfant ou également à l'imprévisibilité de l'adolescent, souvent les adultes ont tendance à se comprendre et à faire bloc. Mais les différentes réformes de l'éducation nationale, celles du bac et du lycée en particulier, font que les intérêts peuvent vite apparaître divergents. Pensez à Parcoursup. Je ne sais pas exactement comment s'en sort le hors-contrat, mais on sait que dans le sous-contrat, la pression clientélaire peut être forte. Après tout, ils disent « le niveau attendu est plus élevé dans l'établissement privé sous contrat, donc les notes sont plus basses fatalement. Et lorsque l'algorithme de Parcoursup voit des établissements où on a 12 ou 13, ce qui vaudrait 15 ou 16 dans le public, eh bien on n'a pas les écoles, les facultés, les prépas qu'on veut. » Alors du coup, les professeurs disent « oui, mais on ne peut pas non plus exiger ad nauseam ou abaisser ad nauseam l'exigence académique. Il y a un moment, nos élèves, même dans les bons établissements, même dans les bons établissements catholiques ou privés parisiens, n'ont pas non plus un niveau d'expression, d'érudition, de raisonnement, de logique formidable. Alors, on renforce le pouvoir du chef d'établissement, très bien. Mais je vous assure que pour Parcoursup, à la moindre mauvaise note, sinon on révèle à l'élève ce qu'il vaut pour l'instant, il aura 10 parents dans son bureau, il aura la fronde, etc. Alors si les pouvoirs du chef d'établissement envers ses professeurs seront plus importants, je parle bien de l'échelon du lycée, on risque d'avoir quelques surprises en matière d'exigence académique.
Ce qui est sûr, c'est que si vous faites ça de manière individuelle, si un jour un directeur quelque part renforce ce que vous venez de dire, effectivement, il va se prendre d'un coup tous les parents qui vont lui dire « dis donc » par rapport au collège d'à côté ou par rapport à... Donc très clairement, il faut que ce soit une dynamique générale. Depuis quelques années, il y a une dynamique qui est plutôt vers le bas, qui affaiblit le niveau. Nous, ce que nous voulons proposer, parce que Parcoursup, c'est un sujet complexe, même si... Petit à petit, sans être un expert sur la question, il semblerait que les algorithmes quand même se perfectionnent. Ça reste tout à fait perfectible, mais les retours terrain que nous avons sont plutôt positifs, même dans le hors-contrat, où la mise en place a été un peu compliquée, mais il semblerait que quand même ça évolue positivement. Donc réjouissons-nous. Toujours est-il qu'il faut que ce soit un mouvement global. Un mouvement global qui dise, ben voilà, on va d'une part renforcer les pouvoirs du chef d'établissement, d'autre part recentrer le socle commun primaire, collège, lycée sur les fondamentaux. Ça, c'est aussi quelque chose que nous proposons. Et d'ailleurs, il y a une question là-dedans dans le sondage sur la communication entre les parents qui dit « Est-ce que vous seriez d'accord pour une meilleure communication entre l'école et la famille pour renforcer l'autorité et les apprentissages ?» Et ils sont 92% des parents d'élèves à répondre « oui ». Parce qu'en fait, la communication aujourd'hui entre, je ne sais plus les noms, mais école directe, tous les éléments pour communiquer, on est un petit peu noyé. Mais c'est plutôt la qualité de cette communication qui pose problème. En fait, les parents, ils sont tout à fait prêts à entendre certaines choses et à communiquer sur les fondamentaux. Et comprendre que ça vaut 12, ça vaut 14 pour telle raison.
Mais avec le professeur, vous voulez dire?
Non. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le sondage fait valoir qu'en gros, il y a un Français sur trois qui est satisfait seulement de la communication entre l'école et la maison. Et il y a 80%, 92% pardon, des parents d'élèves scolarisés qui trouvent que ce serait pas mal qu'on retravaille la qualité de la relation parent-professeur pour parent-école, professeur, oui, ça, parent, pour renforcer l'apprentissage et l'autorité. Donc, ils sont pour qu'il y ait des liens plus forts entre la famille et l'école, mais simplement que ça soit au service d'un socle de commun des compétences qui soit beaucoup plus centré sur les fondamentaux. Aujourd'hui...
Oui, sur l'acquisition des savoirs.
Voilà, c'est un peu ça le problème. Et d'ailleurs, le terme d'éducation nationale est très parlant. Qui dit éducation nationale, bon déjà, c'est un petit côté camp de redressement. Et puis, en fait, l'éducation, ce sont les parents qui en sont les premiers acteurs. Et l'école est déléguée à l'éducation sur le temps scolaire. Voilà ce qu'est l'école, ni plus ni moins. Elle reçoit complètement son autorité des parents. Donc ça, c'est bon de l'avoir en tête. Et qu'est-ce qu'elle est censée faire? Transmettre de l'instruction, transmettre de l'enseignement. D'ailleurs, on parle de ministre de l'enseignement supérieur. Pourquoi on ne parlerait pas de ministre de l'enseignement primaire, secondaire? Il y a un problème dans cette notion d'éducation nationale qui fait que vous vous retrouvez ensuite avec des ateliers sur le brossage de dents, sur l'alimentation, sur...
recyclage.
Exactement, à l'écologie, les éco-écoles. Tout ça est très bien, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment la place
C'est la proposition 3 que vous faites, mais dans le gros quart d'heure qui nous reste, je voudrais qu'on revienne quand même sur un dernier résultat de l'étude,
avec plaisir,
qui est la nécessité d'une agence d'évaluation indépendante. Parce que là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est il y a des gens qui sont insatisfaits et il y a des ministres qui prennent en compte cette insatisfaction en inventant des machines à gaz. Il y a des pédagogistes qui expliquent que ce n'est pas grave si 40% des élèves ne savent pas lire ni écrire en sixième. Ça signifie juste qu'ils ont réussi à briser je ne sais quel monopole capitaliste sur le savoir patriarcal. Mais donc, fondamentalement, les gens se disent non, l'école est partie en quenouille et ce serait bien qu'il y ait quelqu'un pour s'en rendre compte. Et de même qu'il y a des inspections internes, et ben là peut-être que le corps des inspecteurs est trop satisfait d'un résultat trop médiocre. Pourquoi est-ce qu'on ne déléguerait pas ça à une autorité indépendante?
C'est justement la question qu'on a posée, effectivement. Et c'était vrai que 46% des Français, il y a toujours une petite marge d'erreur possible, mais quand même, 46% des Français pensaient que l'éducation, qu'une agence indépendante serait plus pertinente. 43% des Français pensaient que c'était l'éducation nationale à qui ça revenait, et 11% disaient le bouche à oreille. Ce qui est intéressant, c'est que le public voulait une agence indépendante, forcément. Le privé disait pourquoi pas l'éducation nationale, en gros, hein, je vous raccourcis, comme tiers dans la relation. Quoi,
seuls 40% des parents du public font confiance au ministère pour évaluer l'éducation nationale.
Exactement. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les Français se rendent compte qu'on ne peut pas être à la fois l'arbitre, le goal et le joueur. À un moment donné, il faut une logique. Donc ils disent, peut-être qu'on pourrait évaluer en fonction de quels critères. Tout ça, bien sûr, ça demande à être affiné. Comment on fait pour définir ce qui est jugé? Et c'est là où la question du socle est intéressante. C'est que pour pouvoir juger quelque chose, il faut savoir ce qu'on juge. Qu'est-ce qu'on veut regarder? On veut regarder la construction de l'esprit critique. Ça me permettra de donner un dernier chiffre auquel je tiens. La construction de l'esprit critique, l'élaboration de la pensée et la capacité à saisir le réel, qu'il soit mathématique, qu'il soit littéraire, qu'il soit scientifique. Et il y a un chiffre là-dessus qui est très intéressant. 66% des Français voient arriver l'intelligence artificielle dans les apprentissages et en sont très inquiets. Ils craignent que l'impact soit négatif dans la construction de l'esprit critique. D'autant que, c'est intéressant parce qu'il y a un an de ça, je crois, un peu moins, Elisabeth Borne, quand c'était elle, a annoncé que 20 millions d'euros seraient dédiés à l'élaboration d'une IA scolaire. Comment ça allait avoir lieu? Pourquoi? Je n'ai pas suivi le déroulé. Mais ce qu'on sait, c'est que, de manière générale, ce qu'ils ont fait sur le numérique, ils risquent de le reproduire sur l'IA, à savoir, allons-y, ouvrons les vannes. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les parents sont inquiets de ça. Ils se rendent compte que les enfants ne sont plus réalisés dans le sens incarné. Ils passent trop vite à l'abstraction. Et l'IA, qu'ils utilisent tous, et Jérôme Fourquet l'a dit lors de son analyse, lors de notre colloque, il a dit, on a posé cette question aux Français. D'habitude, on n'aime pas poser les questions réservées à des experts aux Français, c'est un peu démagogue. En fait, mais sauf qu'avant, on avait fait d'autres études où on a réalisé que les Français avaient déjà beaucoup l'usage de l'IA. Ils savaient de quoi on parlait, ils savaient. Et ils étaient tous très inquiets. De fait, il y a un enjeu crucial, et moi c'est vraiment là-dessus que j'aimerais insister et pour lequel nous nous battons à la Fondation pour l'école, c'est qu'aujourd'hui les enfants n'ont plus le sens du réel et de l'effort. Tout est facile. L'IA vous dit, demandez, je sais pas moi, parlons, qui est Jules Ferry. Elle va vous pondre l'intégralité d'un paragraphe qui parfois est faux. Faites l'exemple, j'ai demandé la liste de la commission éducation à l'Assemblée, il y avait 4 erreurs. Donc, vous voyez, sur un truc basique qui se trouve sur Internet en un clic, hein, et sur une version payante d'un chatbot. Donc les Français sont conscients qu'en fait il y a un risque de nivellement par le bas encore plus accru, et ils en sont très inquiets. Et c'est pour ça qu'ils payent, parce que je finis par un chiffre quand même, il faut savoir que le hors-contrat et le sous-contrat font réaliser à l'État par an 10 milliards d'euros d'économies. Voilà, parce qu'on dit tous, oui, mais le privé, va falloir payer. Ben, je suis désolé, mais aujourd'hui, ces solutions-là, elles font gagner de l'argent à l'État. Pourquoi ? Parce qu'un élève scolarisé dans le public qui coûte, selon les chiffres de la DEPP, 10 000 euros à peu près par an, c'est entièrement pris en charge par l'État. Un élève pris dans le public en charge par l'État partiellement coûte 7 000 euros à peu près, et dans le lot, il y a 2 000 euros qui sont assumés par les parents. Et les élèves du hors-contrat, ils coûtent zéro à l'État. Et ils coûtent en gros 3 900 à 4 000 euros par an. Donc déjà, on fait mieux avec moins. Et en plus, ça ne coûte pas un sou. Donc tout ça mis bout à bout, vous faites des économies faramineuses. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est pas dire allons-y, ouvrez les vannes de l'argent. C'est juste, bah, regardez, là, c'est mieux fait, ça va vous faire des économies. Faut juste sortir des postures, avoir un peu de courage et pas regarder juste la prochaine mandature, les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine élection, quelle qu'elle soit.
Alors, dans les propositions que vous faites, et qui d'ailleurs, à mon sens, vont dans cet esprit d'économie que vous mettez en avant, il y a notamment, c'est la proposition 3, la réforme du socle commun des connaissances et compétences. Alors, plutôt que d'avoir des ateliers de brossage de dents, vous proposez, par exemple, de développer le calcul, mais vous ne le dites pas comme ça. À côté des savoirs fondamentaux et des connaissances validées par des examens, l'école propose plusieurs enseignements ne relevant pas de sa mission d'instruction, qui, parfois, ne sont même pas validés par des diplômes nationaux. Et là, on sent effectivement que l'atelier brossage de dents n'est qu'un exemple parmi 1000 aberrations où l'enfant n'apprend rien, sinon des choses qu'il pourrait apprendre à la maison, enfin voilà, et qu'à la limite, en allant jouer au square et en jetant des marrons sur la tête de ses copains, il en apprendra plus en biologie qu'à l'école. À quel enseignement ne relevant pas la mission d'instruction, n'étant pas validé par des diplômes nationaux, pensez-vous, en écrivant cette phrase très, très polie et très pesée?
Alors, c'est très bien que vous me posiez la question, ça me permet de faire un rectificatif pour mes chers collègues qui en voient des vertes et des pas mûres. Je pense que vous en savez quelque chose, mais il y a certaines familles où tout ne va pas de soi, et certaines des familles que je scolarisais avaient besoin d'apprendre comment se laver les dents. Très clairement, et puis pas que ça, il y avait d'autres, et je le dis sans aucun mépris, mais il y avait certaines situations sociales où je mettais un peu ma casquette d'assistante sociale pour les aider, parce que il y avait un enjeu fort. La question est la suivante: est-ce que c'est à nous de prendre cette prérogative et du coup de la retirer aux parents? Et c'est toujours la même logique, c'est de dire attention, regardez, donc, parce que on a parlé du brossage de dents, il y a tous les ateliers sur le numérique. Des PIX, alors là, vous en des certifications, vous en avez dans tous les sens, des scratchs, qui en soi sont pas, je veux dire, c'est pas méchant, mais c'est pas ça qui va vous apprendre à utiliser ensuite Excel quand vous serez plus grand. Et puis, c'est de la perte de temps, très clairement. Donc, est-ce que c'est à l'école de dire, comme vous ne le faites pas, circulez braves gens, je vais m'en occuper? Ou est-ce qu'il n'y a pas un moment, un constat, qui est de dire, ok, chère famille, et c'est ce que je faisais en réunion parents, de dire, ok, votre mission s'arrête là, la nôtre commence ici. Mais par contre, on ne va pas faire la vôtre et vous n'allez pas faire la nôtre. Et s'il y a un problème d'hygiène, ben moi, je vais vous le signaler à vous. Je vais vous traiter en adulte, en fait. Je ne vais pas vous dire, je vois que vous ne savez pas l'habiller correctement, qu'il fait trop froid, ou je vois que vous ne savez pas le nourrir correctement, donc je vais faire des milliards d'ateliers sur, que sais-je, les fruits et les légumes, même si ça, c'est très bon. Évidemment que dans les apprentissages, vous allez tout mettre en œuvre pour que l'enfant, et surtout les citadins, dans le quartier où je travaillais, ils ne voyaient pas beaucoup, de potirons, par exemple. Bon, bah, vous allez essayer de varier, de leur apprendre des choses, mais vous n'allez pas le retirer aux familles. C'est essentiel. Il faut toujours commencer par dire, votre travail est là, le nôtre est là. En revanche, mettre des ateliers, je prends un exemple, la fameuse réforme Evars, qui heureusement n'est pas dans le socle commun, et à laquelle le hors-contrat échappe, du coup, pas le sous-contrat, mais le hors-contrat. Typiquement, la réforme Evars, elle va vous dire des choses
donc qui... l'éducation à la vie affective et aux relations sexuelles.
Oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Elle va vous dire que il est bon de savoir gérer ton espace, mon espace, et puis progressivement, ça déroule vers, à partir du CP, ta famille, ma famille, et puis si c'est une famille avec deux papas, deux mamans, un couple ou que sais-je, il faut aborder, c'est ce qui est dit dans l'Evars, tous les types de familles. Donc ça laisse un champ très ouvert à tous les horizons. Donc ça, typiquement, on est typiquement dans de l'entrisme idéologique. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, à partir de maintenant, c'est l'école qui va apprendre aux enfants quel est le bon modèle social. Et ça sera comme ça. Eh bien, nous pensons que c'est une erreur lourde de conséquences. Les parents sont ceux qui choisissent ce qui est bon ou pas pour leur enfant, hors du lire, écrire, compter. Et il y a déjà du boulot, donc pourquoi compliquer la vie des enseignants? Il y a déjà beaucoup de choses à apprendre, donc ne le rajoutons pas. Donc c'est le sens de cette proposition qui est de dire, voilà, faut vraiment, la proposition 3 de nos propositions, ne pas alourdir l'emploi du temps scolaire, mais à côté, avoir des ateliers. Et nous avions développé tout un des ateliers d'aide à la parentalité, parce que franchement, être parent aujourd'hui, c'est pas une sinécure. Je sais pas si vous avez des enfants, mais si c'est le cas, vous voyez de quoi il s'agit. Il y a tellement de confrontations possibles avec la pornographie, avec des contenus violents, avec enfin mille choses.
En un gauche, clic. La gauche tout simplement. Non, pardon, excusez-moi.
Digression. Recentrons-nous sur les fondamentaux. toujours est-il qu'il y a tellement d'enjeux que les parents sont vraiment démunis. C'est pour ça qu'on a associé au sondage d'ailleurs la Fédération de parents des écoles indépendantes, qui représente quand même 25 000 familles, mine de rien, et qui était très preneuse de ce sondage, notamment sur la question de l'IA. Il y avait un très bon témoignage de la présidente de cette fédération qui disait, mais en fait, il faut apporter une réponse qui soit pas juste c'est pas bien ou c'est bien, mais il faut une réponse construite sur le mode en primaire, non aux écrans, mais oui à une initiation type code en bois ou coloris, qui sont des initiations au numérique sans écran, au principe du numérique. En collège, vous allez aborder une vision anthropologique de ce qu'est la machine, l'animal, l'écran, une vision philosophique, en fait, l'humain, pardon. Et puis, progressivement, et notamment au lycée, vous allez pouvoir challenger ChatGPT, si l'on peut dire. Je sais qu'on n'aime pas les anglicismes, donc je vais me reprendre.
Non, mais originalement, c'est un vieux mot français. Donc,
parfait.
On va dire que vous avez rendu à la France ce qui lui appartient.
Mais c'est parfait, vive la France. Mais toujours est-il que là, le lycéen aura des choses à faire. Mais que quand il aura les armes pour le faire. J'ai fait un exercice intéressant récemment. J'ai lu le livre de Luc Ferry sur l'IA et grand remplacement en complémentarité. Et ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de me le résumer. Et là, ça m'a apporté quelque chose, parce que j'avais ma vision personnelle de l'ouvrage, et j'ai vu qu'en fait, il y avait la norme et la synthèse pouvaient être complétées par rapport à ça. Mais ça, je ne peux le faire qu'à posteriori. Ça demande de faire l'effort de lire un bouquin, et derrière, de faire ça. Et ça, les lycéens, ils peuvent commencer à le faire. Mais les collégiens, c'est compliqué. Donc, les professeurs sauront mieux le dire que moi à ce micro, mais il y a une vraie réponse à apporter pour accompagner les parents. Et dernier chiffre important, excusez-moi, je suis un peu long, mais toujours pour les parents, 84% des Français estiment qu'il n'est pas normal que les parents des écoles libres, en l'occurrence hors contrat, n'aient pas accès aux mêmes dispositifs que les autres sur des sujets comme le handicap, par exemple. Aujourd'hui, il y a 48 000 familles à la rentrée 2025 qui n'avaient pas de scolarisation avec un AESH, un assistant pour les enfants en situation de handicap, parce que l'État n'en avait pas, il n'avait pas recruté, pour X raisons. Résultat, beaucoup d'entre elles se sont tournées dans le hors contrat, vers le hors contrat. Et là, que s'est-il passé? D'un coup, pour l'État, leur enfant qui était handicapé a été guéri, fait un petit voyage à Lourdes, manifestement, parce qu'il n'y avait plus rien qui était pris en charge. Ni le transport scolaire, ni l'AESH, ni rien. 84% des Français sont pour que ça change et qu'il n'y ait pas de conditions de statut.
Parce que, effectivement, ce qui est intéressant dans la Fondation pour l'école, c'est que vous n'opposez pas un modèle à un autre. Il y a une pluralité Exactement. De modèles possibles, l'éducation publique, l'éducation privée hors contrat, l'éducation hors contrat. En fait, l'État, en revanche, lui, distingue très nettement entre ceux qui se soumettent à l'éducation nationale, à son pédagogisme, à sa fonctionnarisation, à la massification, à la standardisation. Et voilà, si vous n'êtes pas dans le moule, eh bien, vous n'avez pas droit à certains transports scolaires, vous n'avez pas droit aux bourses d'État, vous n'avez pas droit aux équipements de loisirs communaux, c'est-à-dire vous habitez dans une commune où il y a un terrain de foot communal, mais il est réservé aux élèves de l'école communale et pas à la même école qui est sur le même territoire avec les parents qui vont dans la même épicerie. Donc, on a le droit de tout partager, sauf le terrain de foot. On n'a pas le droit au pass culture. Et ça, c'est une véritable discrimination républicaine.
Et on vous le reproche de les inspections. Exemple des piscines. Il faut que l'enfant sache nager. Typiquement, là, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment la prérogative de l'école. Mais ok, admettons. Il faut que l'enfant sache nager. Sauf que les écoles, hors contrat, la plupart du temps, se voient refuser l'accès sur les créneaux scolaires dans les piscines municipales. Il y a quelques exceptions, mais c'est vraiment à la marge. Bon, bah, résultat, comment voulez-vous ? Vous leur demandez. Et dans le rapport d'inspection, il y a écrit, attention, le savoir nager, c'est pas normal, ceci, cela. Donc, non seulement ils n'y ont pas droit, mais ensuite, après, on le leur reproche. Donc, en fait, ce qu'on veut à la Fondation, nous, c'est de dire, attention, il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance de ce qu'est le hors-contrat et le sous-contrat, parce qu'il y a des postures idéologiques, et nous, nous voudrions contribuer à ce que chacun se parle, tout simplement. Parce qu'encore une fois, le hors-contrat, demain, ne va pas devenir 80% du système scolaire, et ce n'est pas ce qu'on souhaite, vraiment. On veut juste qu'il y ait une bonne intelligence qui se fait déjà au niveau local. Je parlais de cette professeure du public qui m'a beaucoup appris, mais qui ne se fait pas au niveau national. Et c'est vraiment regrettable, parce que là encore, vous seriez surpris de la diversité qu'il y a dans les écoles hors-contrat. C'est vraiment le reflet de la société française. Il y a de tout. Que ce soit des écoles autour de la nature, que ce soit des écoles bilingues anglo-allemandes ou que sais-je, que ce soit des écoles haut potentiel pour les 10 de toutes sortes, dyslexiques, dyspraxiques et tutti quanti, il y a mille choses. C'est beaucoup plus une émanation de la société civile qu'une espèce de posture, on va dire, de catho-réac, parce que c'est un peu la caricature que ça a. Il faut savoir que les écoles dites à pédagogie classique explicite et catholique ne représentent que 23% de l'ensemble. Donc finalement, c'est assez peu par rapport à ce qu'on croit.
Et la Fondation pour l'école donc, émet 15 propositions. Est-ce que sur ces 15 propositions, certaines... Pardon, je vous ai coupé.
Ah non, je vous écoute avec vous.
Est-ce que sur ces 15 propositions, certaines sont sorties de cette étude, ou est-ce que vous les portez ? Est-ce que certaines ont été modifiées par l'étude ?
Il y en a une qui était très intéressante de regarder, c'est celle du chèque éducation.
Alors oui.
Alors bon scolaire, coupon scolaire, chèque éducation, appelons-le comme on veut, c'est plutôt un principe. Parce que... traditionnellement, la France est perçue comme de culture très jacobine, on le disait. Et du coup, on craignait que les Français soient favorablement opposés à cette demande. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, que 66% étaient d'accord, dont 71% des parents du public, et dont 72% issus des catégories populaires. Et ça, qu'est-ce que ça nous a fait dire ? Ça nous a fait dire, en fait, il n'est pas normal que les familles les moins aisées ne puissent pas disposer du libre choix de l'éducation. Donc cette mesure-là qu'on avait déjà a été vraiment, elle a pris un coup de jeune d'un coup là, parce que on a vu qu'en fait les Français y adhéraient massivement, et surtout ceux qui n'y avaient pas accès, parce qu'il y en a qui ont déjà accès, ils payent cher souvent parce que malheureusement ça coûte cher, et ils peuvent avoir des écoles, les écoles qu'ils souhaitent. Mais tous les autres qui sont laissés pour compte, bah eux ils ne l'ont pas. Donc cette mesure-là, on l'a trouvée très intéressante. Elle se fait déjà dans certains pays. Il faudrait évidemment prendre l'esprit et non la lettre, réfléchir à comment la mettre en place, le faire sur le temps long, l'expérimenter dans un département, il y a mille choses à faire, hein. C'est pas Shazam. Mais en revanche, une fois que vous prenez cette logique en fait, qui est de désengorger, de déconcentrer les pouvoirs et de rendre aux parents le choix, puis aux directeurs les pouvoirs, et ben après, vous verrez qu'au niveau national, ça se portera mieux. C'est ça qu'on a voulu porter. Il y a d'autres façons de financer, hein. Ça peut être le contrat simple, par exemple. Il y a d'autres façons de financer les écoles qui marchent bien. Mais en tout cas, cette question du libre choix, du chèque éducation ou du bon scolaire, on s'est dit, ah ben, il y a vraiment une attente des Français vers plus de subsidiarité scolaire, en fait.
L'idée est séduisante.
Dernière question.
L'idée est séduisante. Je me rappelle, puisque... Bon, sur le 16, l'élégance de ne pas le dire, je suis également professeur. Je me rappelle d'une visite de professeurs américains, notre établissement, qui nous expliquaient qu'en fait, à la moindre contrariété, à la moindre rumeur, à la moindre pétition éventuellement de parents d'élèves, ils pouvaient être licenciés. Justement, parce qu'effectivement, les parents sont les donneurs d'ordre. La Fondation pour l'école mène un travail merveilleux, et nous parliez effectivement de ce poids que pouvait avoir l'État, de ces paradigmes pédagogiques qui subsistent aujourd'hui. Il ne faudrait pas non plus être très angélique par rapport au choix des parents, au choix de la société. Il me semble qu'une force doit aussi être capable de s'y opposer. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Mais en tout cas, cette idée d'une éducation entièrement libérale et qui se fonderait sur le libre choix des parents ne va pas forcément vers l'excellence scolaire, vers l'instruction. Il va parfois vers la satisfaction d'un projet et d'un objectif immédiat.
Je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas être dans l'angélisme et dans l'irénisme, on est d'accord. Simplement, c'est une question de degré plus que de nature. Entre l'ultralibéralisme anglo-saxon et là où nous sommes nous aujourd'hui, il y a un curseur qui peut être déplacé. Parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui privilégient le court terme. Et c'est une critique qu'on fait parfois au chèque éducation en disant, mais attendez, on va pas demander leur avis aux parents, ils n'ont pas une stratégie scolaire forcément intelligente. Ah bah oui, certes, Mais dans ces cas-là, on va pas non plus leur demander d'éduquer leurs enfants, d'avoir le droit de vote et de payer des impôts. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la liberté va avec la responsabilité. Et à un moment, il faut la donner aux parents. Maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'il faut un cadre et que c'est pas anarchique. C'est pour ça que le directeur doit incarner cette limite-là. Et il m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour de dire à certaines familles, je suis désolé, certes, votre enfant aurait besoin de ci, ça, 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 notamment qu'on lui parle gentiment, qu'on accepte sa mauvaise humeur et qu'il soit prié de ne pas faire ses devoirs parce qu'il n'en a pas envie. Mais les règles communes s'appliquent à lui, elles sont formalisées dans le projet pédagogique et dans le règlement intérieur de l'établissement, et donc il n'y dérogera pas. Donc c'est le bien commun et le bien particulier qui sont les fameuses poupées russes. Mais je vous rejoins, il ne faut pas non plus tomber dans le libéralisme ultralibéral anglo-saxon. Encore une fois, je pense qu'on en est très loin, et cette étude montre qu'on aspire à un peu plus de liberté, voilà, de décongestionner un peu l'école.
Eh bien, merci mille fois Augustin Yvan de nous avoir proposé de venir commenter ici cette passionnante étude de la Fondation pour l'école.
Merci à vous.
Voilà, ensemble, préparons l'avenir. C'est un message que j'espère tous les candidats à la présidentielle entendront, et ça tombe bien, on en reçoit un juste maintenant. Merci et au revoir.
Merci à vous.